BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h, bienvenue dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, premier conseil des ministres ce matin à l'Elysée, le premier pour le gouvernement de François Bayrou. Petite mise en jambe avant d'attaquer le dur et la conception du budget 2025. On a le sentiment qu'il reste quand même pas mal de travail. Joe Biden qui bloque le rachat de US Steel par Nippon Steel. Donald Trump, président, n'aurait pas fait mieux. Voilà les grands titres du journal qu'on va développer dans un instant. 18h15, nos experts sans frontières seront là comme tous les vendredis. Avec eux, on va parler de la France, de l'Europe et de cette économie mondiale que Donald Trump, justement, risque de faire valser dans les prochaines semaines, les prochains mois. Voilà le programme. Non exhaustif, évidemment. On est ensemble jusqu'à 19h. Bonne soirée.
Good Evening Business, le journal.
Donc oui, c'était ce matin le premier conseil des ministres du gouvernement Bayrou à l'Elysée. Il en ressort que visiblement, il reste beaucoup de choses à faire pour espérer voter un budget à la mi-février. Écoutez, la prudence de Sioux sur le sujet ce matin de la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Le déficit sera le résultat des concertations et du chemin qui sera trouvé lors des concertations à Bercy et également pour le PLFSS. Donc on va se fixer d'abord ce dialogue, se fixer et après être entre 5-4, 5-1, 4-9, 4-8. On verra le résultat de ces négociations et on verra où est le chemin et ce qui est supportable pour le déficit français.
Voilà, Sophie Prima, on verra, dit ce matin la porte-parole du gouvernement. On sait déjà, cela dit, François Bayrou et Éric Lombard l'ont déjà déclaré, que l'objectif de ramener les déficits à 5% du PIB à la fin de cette année était abandonné. D'après les informations du Monde ce soir, le gouvernement entend laisser filer les déficits à 5,4% du PIB fin 2025. Et alors à ce sujet, puisqu'on parle déficit, on voulait vous dire un petit mot de l'Italie. Parce que là-bas, les chiffres sont tombés ce matin. À la fin du troisième trimestre, les déficits italiens avaient baissé. Rome est en train de poursuivre un plan de redressement qui porte ses fruits. Mais comment font les Italiens? On voit ça avec Gwendal Dobreschal.
Ramener le déficit à 3,3% cette année, puis 2,8% du PIB en 2026. Voilà l'objectif ambitieux du gouvernement qui parviendrait ainsi à repasser sous le plafond de 3% du pacte de stabilité de la zone euro. Et Rome est sur la bonne voie. Il faut dire qu'elle a enclenché les grandes manœuvres en mettant massivement à contribution les banques et les compagnies d'assurance. En 2025, elles débourseront 3,5 milliards d'euros pour soutenir le système de santé national. À cela s'ajoute une rigueur budgétaire globale. Le gouvernement de Giorgia Meloni a notamment mis fin au système de superbonus. Ce dispositif de prime verte pour la construction, introduit en 2020, aurait coûté plus de 150 milliards d'euros au budget de l'État. Sa suppression doit aider Rome à stabiliser la hausse de ses dépenses publiques jusqu'en 2029. L'Italie, qui devrait réduire son déficit à 3,8% en 2024, adresse ainsi un message fort à Bruxelles, qui garde le pays dans son viseur en raison d'une dette publique considérable. Elle atteint 137% de son PIB.
Voilà l'Italie qui, elle, arrive à réduire ses déficits. On en parlera avec un de nos experts sans frontières, le journaliste et politologue italien Alberto Toscano, qui sera avec nous dans une dizaine de minutes sur BFM Business. 18h03, ça sera donc sans doute la dernière grande décision de Joe Biden en tant que président américain. La Maison-Blanche annonce qu'elle va bloquer le rachat de US Steel, fleuron de l'industrie sidérurgique américaine. La Maison-Blanche bloque son rachat par les Japonais de Nippon Steel. Washington invoque évidemment des risques pour la sécurité nationale. Raphaël Couder.
Joe Biden porte un coup probablement fatal à ce projet de fusion à 15 milliards de dollars. Selon lui, l'accord entre le japonais Nippon Steel et l'aciériste historique américain représente un risque pour la sécurité nationale américaine. Cette décision est loin d'être une surprise depuis l'annonce du deal entre les deux groupes en décembre 2023. Les deux candidats à l'élection présidentielle s'y étaient à plusieurs reprises opposés. Joe Biden décide finalement de trancher sans attendre de céder sa place à Donald Trump et donc de bloquer ce rachat malgré les concessions consenties par Nippon Steel ces dernières semaines, notamment sur l'emploi. En novembre dernier, le Premier ministre japonais a même exhorté dans une lettre son homologue américain à approuver la fusion sous peine de gâcher les efforts mis en place pour renforcer les liens entre les deux pays. Avec ce veto, US Steel, groupe centenaire emblématique de la sidérurgie américaine, perd une source essentielle de capitaux. Il a déjà prévenu que l'échec de cet accord mettrait en péril des milliers d'emplois et le contraindrait à fermer certaines de ses usines.
Voilà l'opération l'opération est bloquée, les Japonais annoncent ce soir qu'ils vont porter l'affaire devant la justice. En France, on continue de surveiller le dossier de la fonderie de Bretagne. Vous savez, cet équipementier qui emploie 350 personnes dans le Finistère, dont Renault s'est séparé l'an dernier et qui souhaite désormais lui retirer toutes les commandes qu'il lui a passées. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, a admis aujourd'hui qu'il y avait, je cite, une situation de blocage. Il souhaiterait en fait que Renault s'engage à honorer quand même une partie de ses commandes. Et puisqu'on parle auto, on voulait vous parler de ces voitures électriques chinoises, alors qui risquent de trouver moins de débouchés en Europe maintenant qu'on a instauré des droits de douane, qui sont taxés à 100% aux États-Unis, mais qui par contre, vous allez voir, se vendent très bien chez le voisin mexicain. Et ça apparemment, ça agace prodigieusement Donald Trump. Mathilde Chaminade.
BYD, JMC, Changhong, ces marques chinoises ont déjà convaincu 9% des Mexicains, comme cet enseignant retraité Miguel Reyes, propriétaire d'une Changhong.
Confortable et élégant, ce véhicule offre un espace généreux et des équipements de pointe. Je trouve également que le prix est très attractif et très compétitif.
25 000 euros pour ce modèle contre plus de 40 000 pour des véhicules comparables de marques occidentales. Une concurrence rude pour les constructeurs européens. Sur les 11 premiers mois de l'année 2024, les ventes d'Audi ont reculé de 22%, celles de Mercedes-Benz de 10%. À l'inverse, Motor Nation, qui commercialise au Mexique des marques chinoises, a augmenté ses ventes de 9%. Les entreprises chinoises ont su s'adapter au goût des consommateurs mexicains, selon Gerardo Gomez, consultant en marketing.
La conception des véhicules chinois a évolué ces derniers temps. Toutes les marques proposent désormais des véhicules dans les segments compacts, des voitures volumineuses, des voitures de luxe et des voitures de sport.
Mais ces véhicules ont aussi leurs détracteurs. Donald Trump accuse la Chine d'essayer d'infiltrer le marché américain via le Mexique. Les autorités mexicaines démentent, mais préparent un plan pour freiner les importations chinoises. Les droits de douane sur les véhicules chinois sont déjà à 20%.
Mathilde Chaminade, dans l'actualité des entreprises, toujours Atos, nous a dit aujourd'hui qu'après avoir enquêté pendant plusieurs jours, qu'aucune de ses bases de données n'avait en fait été infectée par le groupe de ransomware Spacebeer. C'est pourtant ce qu'avait indiqué ce dernier le 28 décembre, donc la semaine dernière. Mais donc Atos a démenti catégoriquement cette information aujourd'hui. Et justement, c'est vrai que depuis quelques jours en France, plusieurs collectivités locales ont été victimes de cyberattaques. Le parquet de Paris a ouvert une enquête. Bonsoir Frédéric Simotel, c'est du côté de gangs de hackers pro-russes qu'on regarde à l'heure actuelle, Frédéric.
C'est en tout cas la piste privilégiée par la DGSI en charge de l'enquête. La plupart des attaques ont en effet été revendiquées par le groupe de pirates pro-russes Noname 05716. Ces cybercriminels dénoncent le soutien de la France à l'Ukraine et accusent même la France d'être devenue russophobe. Les sites des villes d'Angers, du Havre, de Marseille, de Bordeaux, de Nantes, de Nice et d'autres, mais également les départements de Haute-Garonne, celui des Landes ou les territoires d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie ou Polynésie française ont été visés, de même que les sites d'AXA ou de la préfecture de police qui figurent parmi les cibles. Hormis le blocage des sites internet, les dégâts restent toutefois assez limités. Les pirates se sont contentés d'inonder les serveurs informatiques de requêtes automatiques afin de les rendre indisponibles. On appelle ça des attaques par déni de service. C'est d'ailleurs l'une des spécialités de ce gang pro-russe Noname 05716 qui profite aussi des périodes d'activité creuse, de fêtes de fin d'année ou de vacances pour attaquer au moment où la majorité des équipes informatiques sont en congé, ce qui crée un certain chaos. Les risques les plus redoutés sont en fait que ces cyberattaques fassent diversion pour masquer des vols de données, voire des intrusions permettant plus tard de déclencher des procédés de ransomware. Mais à ce jour, aucune faille majeure n'a été détectée.
Frédéric Simotel, on va parler commerce maritime à présent avec cette question. La façon dont le commerce maritime évolue est-il en train d'influer sur la physionomie des flottes? D'après les chiffres de la profession, les commandes de gros navires ralentissent un peu. Est-ce que c'est une tendance de fond, Mathilde Chaminade?
La course aux navires toujours plus gros est en train de ralentir. Cette année, 83 porte-conteneurs de taille intermédiaire vont être livrés, un chiffre en hausse depuis 5 ans. À l'inverse, dans la catégorie de taille supérieure, seulement 6 navires seront livrés, 3 fois moins qu'en 2020. Parmi les explications de ce ralentissement, la stagnation du commerce international, la multiplication des goulots d'étranglement sur les routes maritimes, mais aussi le détournement du commerce mondial de la Chine vers d'autres pays comme l'Inde ou le Vietnam. Les navires navires de tailles intermédiaires sont plus adaptés. Mais les gros porte-conteneurs ne sont pas prêts de disparaître. Ceux avec une capacité de transport de plus de 17 000 conteneurs restent indispensables sur les routes principales qui relient l'Asie à l'Europe. En 2022, 52 de ces géants ont été commandés. Plusieurs d'entre eux sont toujours en construction. Les armateurs se tournent même vers des bateaux encore plus gros, capables de transporter 20 à 25 000 conteneurs. MSC, CMA-CGM et One notamment en ont tous commandé.
Et puis on va finir avec une préoccupation bien franco-française, vous le savez, mais c'est plus prononcé que prévu, Antoine, mais oui. Nous buvons vraiment moins de vin en France. Voilà, les ventes en France ont encore baissé de 4% l'an dernier. Les jeunes notamment délaissent de plus en plus le vin au profit de la bière, Aline Le Faou.
En quelques années, la tendance entre le marché du vin et celui de la bière s'est complètement inversée. Chaque année, un ménage français achète 17 litres de vin en moins par an qu'il y a 15 ans, mais sur cette même période, il achète 5 litres de bière en plus. Un changement qu'on doit principalement au prix. 2,60€ pour un litre de bière contre 5€ pour un litre de vin et jusqu'à 12€ pour un vin effervescent entre 2019 et 2023 selon France Agrimaire. Autre phénomène, les Français se soucient davantage de leur santé. Ils vont notamment privilégier la bière parfois sans alcool ou avec une teneur plus faible que celle du vin. Conséquence, c'est toute la filière viticole qui dégringole. Seules les dépenses pour les vins blancs ont augmenté de 2,6% en un an. Les ventes de rouge, de rosé et de vins effervescents baissent, particulièrement le champagne. Rien qu'à Noël, selon la SCD, ces ventes ont baissé de 6% sur un an.
Les marchés de suite. Voilà, ça s'appelle le fou rire, ça arrive de temps en temps. Bonsoir Antoine, bonsoir. Clôture en baisse, apparemment.
Oui, clôture en baisse, effectivement. Un CAC qui recule d'1,5%, 7282 points. Les volumes d'échanges assez actifs, hein, c'était une séance vraiment normale du côté de la Bourse de Paris. 3 milliards d'euros d'actions négociées. Ce qui a pêché, alors, le secteur du luxe, on a eu des chiffres de vente particulièrement décevants du côté des grandes surfaces du luxe en Chine ce matin. Et ça a envoyé par le fonds Kering, qui recule de 4,9% à 224,35€. Également LVMH, moins 3,8%, 611,30€. On a eu aussi une note d'UBS qui se dit très sceptique quant à la capacité du secteur de renouer avec des bons taux de croissance comme les années passées. À noter ArcelorMittal qui recule de 4,6% à 21,46€ avec Joe Biden qui a décidé d'arrêter le processus de fusion entre US Steel et Nippon Steel. Tout ça va être mis dans les bras de la justice. Hein. Nippon Steel ne va pas se laisser faire. Puis Stellantis qui recule de 3,5% à 12,18€. Alors certaines primes à l'achat ont été supprimés du côté des États-Unis et c'est précisément là que le groupe doit écouler le maximum de stock. Du côté des secteurs qui ont mieux marché, l'énergie. Hein. Engie signe la plus forte hausse du CAC 40, plus 0,61% à 15,62€. Total Energy plus 0,5%, 54€ avec un baril de Brent qui est toujours au-delà des $76. À noter en tête des progressions du SBF 120 aussi. Tout le secteur de l'énergie, GTT plus 3,7, 139,50 ou encore Esso plus 3,27 à 120€.
On regarde Wall Street pendant ce temps. Du côté des marchés américains, c'est la mi-séance bien sûr et on repart à la hausse après 4 séances de baisse. Le Dow Jones qui gagne 0,68%, 42 681 points. Le Nasdaq, lui aussi en hausse, plus 1,4%, 19 556. Bah, c'est reparti là, Wall Street, Antoine, on dirait.
C'est complètement reparti et justement, on résiste même aux mauvaises nouvelles puisque US Steel, malgré sa fusion arrêtée, hein, le titre perd 5,7%. Le reste de la cote est en hausse. Hein, on reste confiant, optimiste sur l'état de l'économie américaine et sur la capacité de Wall Street à pouvoir en profiter.
Merci beaucoup, Antoine. 18h12, les Experts sans frontières arrivent dans un instant jusqu'à 19h sur BFM Business. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Allez, 18h15, ça débat déjà entre nos experts sans frontières comme tous les vendredis. On fait un petit peu le monde entier, la France, l'Europe et le monde. Et il y a beaucoup de choses à voir ce soir avec nos experts, bien sûr. Alberto Toscano est avec nous, bonsoir Alberto.
Voilà, c'est là,
merci d'être avec nous. Adina Revol est avec nous, bonsoir Adina.
Bonsoir.
Vous êtes essayiste, auteur, il y a un bouquin d'ailleurs qu'on va évoquer, Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. C'est aux éditions Odile Jacob, vous êtes ancienne porte-parole de la Commission européenne. Rennes. Vous étiez à la commission jusqu'à encore quelques semaines. Et puis Guillaume Clossat est avec nous. Bonsoir Guillaume.
Bonne année Guillaume.
Bonne année à toutes et à tous, évidemment, président d'Europa Nova. Merci d'être avec nous. On a beaucoup de choses ce soir dans l'actualité internationale. Est-ce que vous me permettez de dire un petit mot de la France quand même pour commencer? Parce que ce matin...
Vas-y Guillaume.
C'est le premier conseil des ministres de François Bayrou et de son gouvernement. On n'a pas appris grand-chose sur le budget. Écoutez, mais alors vraiment ce qui s'appelle de la prudence de Sioux sur le sujet. Prudence de la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas.
Le déficit sera le résultat des concertations et du chemin qui sera trouvé lors des concertations à Bercy et également pour le PLFSS. Donc on va se fixer d'abord ce dialogue, se fixer et après être entre 5-4, 5-1, 4-9, 4-8. On verra le résultat de ces négociations et on verra où est le chemin et ce qui est supportable pour le déficit français.
Voilà, on verra en gros, nous dit Sophie Primas. Est-ce que vous n'êtes pas agacé? Parce que rappelez-vous, sur Michel Barnier, on était parti pour amener les déficits à 5%. Là, on nous dit, bon, bah, ça sera du 5-4, du 5-5. Voilà. Donc on prend déjà les libertés avec ce qu'on avait promis il y a quelques semaines, à tout
cas. J'ai entendu plusieurs chiffres,
oui.
Mais je n'ai pas entendu le chiffre clé, 49-3.
Ça, c'est l'étape d'après. Attendez. Alors que vous serez à combien à la fin de l'année, 3%
non,
en Italie?
Non, certainement pas 3%, non, environ de 5%. Non.
Oui, mais vous en approchez quand même, sérieusement, des 3% là.
Oui, parce que l'année dernière, l'Italie a payé le prix de la politique des choix du gouvernement dirigé par Conte, Giuseppe Conte, 5 étoiles.
Oui.
Et les conséquences de ces choix, notamment en termes d'aide aux bâtiments et aux restructurations de les bâtiments, ont été considérables pendant des années et des années.
Et oui. Et donc, il y a que deux mois, même pas deux mois, quelques semaines, on dit on sera à 5, on dit à Bruxelles on sera à 5. Bon, on va être à 5, 4, 5, 5. Voilà, Guillaume.
C'est enfin, à un moment donné. Enfin, on devait être à 3, 8 ou à 4 l'année dernière.
C'est vrai.
On était à... Donc, je pense que la machine à chiffres s'est emballée. Et c'est super difficile de revenir en arrière, sauf si on fait des efforts considérables. Pour faire ces efforts considérables, il faut avoir une vision sur laquelle on arrive à mettre l'ensemble de la société. Un peu comme les Canadiens ont réussi à le faire, ou plein d'autres États. Hein. On voit quand même au Portugal, en Grèce, en Pologne. Enfin, il y a eu des... Mais il faut arriver à créer une dynamique sociétale et engager l'ensemble des parties prenantes dans cette dynamique. Et la difficulté que je trouve extrêmement forte en France, c'est que les corps intermédiaires ont plus ou moins disparu, en tout cas n'ont plus le rôle qu'ils ont eu à certaines époques dans le débat public. Et quand il n'y a plus ces corps intermédiaires puissants, il n'y a plus cette dynamique de convergence des partis politiques. Parce qu'on dit, les partis politiques, il faut que ça converge, l'intérêt général, etc. Ouais, mais enfin, il faut être embarqué par la société.
Il faut être embarqué.
Et ça, c'est une grosse faiblesse française et il faudrait mettre le sujet sur la table.
Adina,
puis un autre sujet, parce qu'il faut... Si on veut réduire le déficit, il faut une vision de long terme.
Oui.
Et moi, si j'avais...
Deux ans d'une élection présidentielle. Hein. Vous avez la vision de long terme.
On a six mois de tranquille.
Une élection législative par an, on ne peut pas avoir une vision de long terme.
Mais je suis d'accord. Mais en même temps, moi, j'ai réfléchi un peu à ce qu'a dit le président de la République et la possibilité de référendum. Pourquoi pas? Mais je me demande si, dans cette période où tout le monde sait qu'on a quand même au moins besoin de six mois de stabilité, on n'aurait pas pu enclencher quelque chose avec... les forces de la société française, avec ce qu'ils voulaient dans les partis politiques, pour essayer de se reprojeter un petit peu dans l'avenir.
Oui.
Parce que il faut savoir profiter d'un moment difficile et de faire de ce moment difficile un kéros.
Adina Revol, voilà, alors, qui n'est plus la Commission européenne, donc on ne va pas vous demander d'endosser la casquette de porte-parole de la Commission. Mais enfin, du côté de Bruxelles, pour vous, on dit quoi aujourd'hui en entendant tout cela aujourd'hui? On nous a promis 5% de déficit il y a quelques semaines et là on nous dit 5-4, 5-5 comme ça. Enfin, comme dit la porte-parole du gouvernement, on verra.
Bah,
sérieux.
On voit clairement que la France décroche. C'est aujourd'hui le plus mauvais élève dans l'Union européenne sur tous les indicateurs. Même sur le commerce extérieur, l'Italie est passée devant. Donc c'est inquiétant. Et puis comme Guillaume l'a dit l'année dernière, on nous a annoncé un déficit à 4,4.
Ben oui.
Et finalement on a fini à 6,1. Là on nous annonce quelque chose à 5,4. On va finir à combien? Donc le président Macron a parlé ce matin en Conseil des ministres de l'audace. Donc il faut effectivement de l'audace. mais lorsqu'on voit ce gouvernement, l'audace, c'est de faire adopter un budget. Donc l'audace, ça devrait être pour des réformes et pour libérer la France, pour simplifier les choses et pour engager un certain nombre de réformes qui remettront la France dans le cadre du jeu européen, au centre de ce jeu européen.
Les Italiens réduisent leur déficit et pourtant ils continuent d'emprunter plus cher que la France ou quasiment autant que la France. C'est injuste, hein, le monde est injuste, hein, Alberto, quand même.
Non, le monde est juste parce qu'il y a une question de crédibilité. Et la crédibilité de la France, à cause de sa force politique, de sa tradition, de son rôle, est supérieure malgré tout à la crédibilité de l'Italie.
Malgré tout.
Les marchés, oui, les marchés financiers font leurs calculs. Et je trouve que l'Italie doit gagner sa crédibilité. Et ce n'est pas simple pour un pays qui, malgré tout, a une croissance très faible des décennies. Parce qu'on parle souvent du déficit du côté des dépenses. Mais le déficit est un pourcentage et la croissance compte. Et si on est entré dans une phase de croissance faible, voire très faible, et là, les dépenses pèsent deux fois sur le déficit. Et l'Italie est dans cette spirale de croissance faible depuis des décennies.
Sauf en Europe de l'Est, justement. En Europe de l'Est, la croissance, c'est là qu'il y a de la croissance. Pologne, 3%, en Roumanie aussi. Et en Europe de l'Ouest, les pays fondateurs, aussi bien l'Allemagne, sont à croissance presque nulle, voire récession.
Oui, il y a des raisons objectives aussi pour ça. C'est la démographie. La chute de la démographie, la chute de la natalité en Italie est aussi un des facteurs explicatifs extrêmement forts. Et donc il y a un moment où il ne faut pas gérer trop de contradictions. On ne peut pas avoir moins de population et pas de migrants, parce que les migrants, en fait, servent l'économie. Si les États-Unis arrivent...
Encore faut-il que les migrants soient... arrivent dans un contexte de stabilité et pas dans un contexte d'illégalité, d'incertitude et de déstabilisation politique et, je dirais aussi, morale et psychologique d'un pays. C'est la situation de l'Italie, c'est la situation d'autres pays et la répercussion de cette situation est malheureusement la victoire ou quand même le fait que pas la victoire de l'extrême droite pas partout, mais quand même le fait que l'extrême droite, qui est le révélateur de cette peur de l'opinion publique, gagne des points dans les élections.
Alors, de la France, on peut passer sur l'Europe. Bon, on va rester sur l'Europe, parce que là aussi, l'actualité est très très forte. Donc, nouvelle commission européenne qui est entrée en vigueur début décembre, qui va faire ses vrais débuts là dans les prochains jours, bien sûr, avec en ligne de mire l'arrivée de Donald Trump. Et au passage, un passage de relais, évidemment, à la tête de l'Union européenne. Au revoir, Viktor Orban. Bonjour, Donald Tusk, que vous connaissez bien, avec qui vous avez beaucoup travaillé,
c'est
Guillaume.
Voilà. J'aime beaucoup, Donald.
Est-ce qu'on doit être plus soulagé du fait que Orban soit out de la présidence de l'Union européenne ou que Donald Tusk arrive, finalement? Comment vous regardez ça, vous? Est-ce que c'est le bon bonhomme au bon moment, Donald Tusk, pour vous, finalement?
Oui, mais il aurait été encore meilleur dans 6 mois. C'est-à-dire qu'il est quand même très préoccupé par la situation interne en Pologne avec les élections présidentielles qui ont lieu en avril. Et il est très empêché, en fait, par le président sortant Duda, qui peut bloquer en fait sur tout, parce qu'il a une capacité. Il faut qu'il donne son accord pour la promulgation des lois et des décrets, et donc ça lui donne un pouvoir très très fort. Donc ça le préoccupe, et du coup il n'est pas aussi libre qu'il aurait voulu l'être sur les sujets européens.
Interlocuteur privilégié de Paris, de Berlin, voilà, faut le dire.
De tout le monde, parce qu'en vérité, la Commission, la première chose que tout le monde souhaite faire aujourd'hui en Europe, c'est de discuter avec Donald Tusk. La première chose qu'a fait Antonio Costa comme nouveau président du Conseil européen, c'est de passer un coup de fil à Donald Tusk. Enfin, il faut comprendre que la Pologne est un pays qui s'est transformé de manière remarquable. Moi, j'y ai été pas mal de fois ces dernières semaines, depuis 20 ans. C'est une transformation aussi des esprits qui est remarquable. La société civile a résisté aux PiS. Les médias de qualité et indépendants ont résisté aux PiS. C'est pas le cas de la Hongrie, hein, où tout le système... les élites n'ont pas déserté le pays, contrairement à ce ça s'est fait dans d'autres pays européens. Et aujourd'hui, à la fois, il y a une croissance, il y a une volonté politique et il y a dans le débat public le sentiment d'un devoir moral,
à la fois européen, mais à l'égard de l'Ukraine et face à la Russie. Et donc, il y a une société, en fait, qui est en pleine dynamique d'avenir. Et ils oui. se sentent une responsabilité pour l'ensemble de l'Europe, et notamment l'idée que la Pologne doit se donner les moyens d'être un rempart au service de l'Union européenne. Donc ça, c'est intéressant, parce que on dit ça manque de leadership, mais voilà quelqu'un qui en a. Et puis, parmi les chefs d'État et de gouvernement, il y a plusieurs personnalités. Alors, on parle que de la France, de l'Allemagne. Oui, oui, la France oui. et l'Allemagne vont mal, tout va mal. Mais,
on parle tout à l'heure de la France et de l'Allemagne.
Mais il y a oui. d'autres personnalités de grande qualité dans les États membres qui fait que finalement, il y a peut-être une relève européenne qui n'est ni française ni allemande.
Ouais, et tout ça fera de Tusk un interlocuteur privilégié de Donald Trump qui va arriver aux affaires dans quelques jours. Comment est-ce que vous regardez tout ça, vous, finalement? Est-ce que vous dites Tusk est le bon bonhomme au bon moment, finalement, le bon interlocuteur
Parce que ce que je remarque, c'est qu'il va apporter de l'unité, et c'est un mot clé, c'est essentiel. Oui, parce qu'en fait, au niveau des institutions européennes, avec la présidence hongroise et l'émission de paix de Viktor Orban au Kremlin, il n'y avait pas oui. d'unité entre les ministres, donc le Conseil des ministres. Et
on l'a
puis,
vu aller en
parlant
en Géorgie, on l'a vu aller en Géorgie, hein, saigner la victoire très contestée du parti pro-russe. On l'a vu aller déjà en Floride chez Donald Trump.
Voilà. Exactement. Donc on avait une désunion entre les ministres. Et donc, une image très, très affaiblie, finalement, pour l'Union européenne. Donc, avec la présidence polonaise, les priorités, c'est les mêmes que ceux de la Commission. Oui. Donc, sécurité, autonomie de l'Union européenne. Donc, on aura un front uni. Et ça, c'est important. C'est parce que l'Union ne peut être forte que lorsqu'elle est unie. Et donc là, elle montre une image unie. Et puis, il ne faut pas oublier que Donald Tusk, c'est un poids fort, un poids lourd de la politique européenne. C'est celui qui a fait tomber les ultranationalistes du PiS en Pologne.
Oui.
Il a fait deux fois. Donc
deux fois.
Il a été président du Conseil européen, donc des chefs d'État et de gouvernement. Il a eu un mandat très remarquable. Il a une vision. En 2014, lorsque Poutine a annexé la Crimée, il était premier ministre de la Pologne et à l'époque, il avait proposé l'union de l'énergie et une mesure phare, l'achat groupé du oui, gaz qui oui, s'est fait oui, en 2022. Oui, oui. Donc Donald Tusk a une vision pour l'Europe. Et ce qui est bien, c'est que ce qui est assez encourageant, c'est que les priorités polonaises, oui. la sécurité et l'autonomie stratégique, maintenant deviennent aussi des priorités au niveau de l'Union européenne.
Vous êtes d'accord, Alberto, vous pensez que c'est l'homme qui va cimenter un petit peu l'Europe là, au sortir des six mois
sûre,
de
une valeur sûre pour la politique européenne.
Valeur sûre, oui, mais est-ce que ça permet de cimenter, de rabibocher oui,
l'expérience politique.
Oui, mais est-ce que ça va suffire.
Et la Pologne est de plus en plus un pays fondamental dans le contexte de l'Union européenne. Et par rapport aux défis de l'avenir, qui sont aussi les défis de la paix en Ukraine, et les défis de la paix qui exigent, à mon sens, du pragmatisme. Et je crois qu'un Polonais d'expérience peut relever tous les défis qui nous attendent dans la relation tendue, difficile, tragique avec la Russie.
Je vous crois, un homme d'envergure, d'expérience, vous l'avez rappelé tous, mais est-ce que c'est l'homme qui va pouvoir cimenter d'un seul coup et effacer les dissensions européennes? Voilà, dans une période aussi charnière que celle-ci, on va en parler dans un instant.
C'est pas le sujet d'un homme qui va changer la donne. Ce qui est intéressant, Adina l'a dit, c'est l'unité. Et moi, ce que je sais, c'est qu'il a une obsession. Donald Tusk avait une obsession, il a toujours une obsession pour l'unité européenne. Quand en 2016, il y a eu le vote négatif des Britanniques, j'ai eu une longue discussion avec lui, avec une délégation. Juncker et lui nous ont missionnés pour justement réfléchir à comment préserver, quelle feuille de route pour préserver l'unité européenne. Et ça, c'est vraiment son obsession, parce que il a compris que si les Européens ne sont pas unis, ils seront écrasés par l'histoire, ils seront écrasés par leurs voisins, ils seront écrasés par la dynamique chino-américaine. Et même si il parle à Trump, il a été très critique, et sans doute un des plus critiques, sur les risques que représentait Trump. Cela dit, le sujet, c'est la dynamique collective. Alors évidemment, quand nous, en France et en Allemagne, on a l'impression que tout est à plat, on se dit l'Europe part à volo, mais la vérité, c'est que parmi les 27, il y a chefs d'État et de gouvernement, il y en a 6, 7, 8 qui sont assez remarquables, que moi j'ai la chance de rencontrer. On parle de Donald Tusk, mais on pourrait parler de Richard Golub, le Premier ministre slovène, on pourrait parler de Mitsotakis, le Premier ministre grec. Enfin, c'est des gens qui ont une conscience européenne qui est forte et qui ont une expérience du monde qui est plus forte que beaucoup de dirigeants et qui essaient de faire converger les choses. Après, au niveau des institutions, c'est pas un hasard si Antonio Costa est devenu président du Conseil européen. Antonio Costa, que je connais bien, parce qu'on a organisé à sa demande un premier conclave à Lisbonne l'année dernière, et on en prépare un second conclave, c'est-à-dire un rassemblement de personnalités de toutes les disciplines.
Pour élire un pape.
En fait, pour essayer de réfléchir ensemble, pour poser les bons problèmes européens, de sorte que ce soit les bons problèmes qui sont posés sur la table. Parce que souvent, on répond à un mauvais problème par des mauvaises solutions. Et donc, le conclave, ça sert à ça. Et
mais
donc,
on va parler dans un instant, exactement, parce qu'on va parler des défis de l'Europe dans un instant.
Et donc, Costa, Kaya Kallas, Madame von der Leyen, c'est des gens de qualité, et j'espère que ils vont bien travailler ensemble. Ce n'est pas forcément le cas de l'équipe précédente.
On le souhaite pour l'Europe.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Guillaume Paul, Good Evening Business, les experts sans frontières.
Allez, on est reparti, 18h34, les experts sans frontières sont avec nous jusqu'à 19h. Guillaume Closa, Dina Revol et Alberto Toscano sont avec nous en plateau. Ben, on était sur l'Europe, on va rester un petit peu puisque c'est la période des vœux après tout, faisons-nous plaisir. Si je vous demandais, allez, d'un mot, de quelques mots comme ça, vos vœux, vos priorités pour l'Europe pour 2025, qu'est-ce que vous me diriez, Alberto Toscano?
La paix.
La paix, bien sûr. On va en parler, bien sûr, dans un instant.
C'est facile, je trouve, répondre. Encore faut-il savoir que la paix est un résultat de choix politiques. Et la paix est le résultat pour l'Europe aussi de sa cohésion. L'Europe ne pèsera pas dans la bataille pour la paix si elle ne sera pas unie. Une Europe divisée au Moyen-Orient, une Europe divisée devant la Russie, une Europe divisée devant les grands défis mondiaux, est une Europe faible qui ne pèse rien ou pèse peu dans la bataille pour la paix, qui est quand même notre priorité.
Est-ce que vous considérez qu'il y a une diplomatie européenne en 2025?
Je l'espère, mais...
Non, c'était ma question, c'était est-ce que vous considérez qu'il y a une diplomatie européenne en 2025? C'était ça. Vous n'êtes pas convaincu?
Sincèrement, ça ne m'enthousiasme pas. Ça ne me donne pas d'optimisme.
C'est incroyable.
Mais compte tenu que c'est une nécessité prioritaire, alors l'optimisme vient quand les défis deviennent fondamentaux. Dans le moment du besoin, on trouve la force pour se rassembler. Mais aujourd'hui, moi, je ne vois pas.
On pose la question de la l'existence de la diplomatie européenne en 2025, Guillaume. Enfin, Kissinger, là où il est, paix à son âme, nous entend, nous écoute.
Alors, alors, d'abord, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Alberto. Ça pourrait même être une encyclique. Pax et unitas, la paix et l'unité. Ça serait pas mal. Moi, ce qui m'inquiète. C'est pas tant l'absence de diplomatie européenne qu'une contradiction, qu'une dynamique qui est contradictoire. Il y a eu le dernier Eurobaromètre, Adina pourra revenir dessus, et on voit quand même qu'il y a une adhésion des citoyens et des peuples à l'Union qui est la plus haute depuis 2007. Et en fait, elle n'a pas arrêté de monter depuis le Brexit. Hein. Mais elle est très forte. Et en même temps, dans mon quotidien, moi, ce que je vois, c'est un éloignement des élites de l'Europe, mais sans précédent. En fait, les élites sont anti-Europe maintenant, et les citoyens sont pro-Europe. Et en particulier les élites politiques, toute sensibilité. Elles ne sont pas... Les élites économiques, les élites intellectuelles, et je trouve qu'il y a une étrange défaite de la pensée. Vous vous rappelez ce livre de Marc Bloch, où j'ai l'impression que c'est le même état d'esprit aujourd'hui en France et en Europe qu'elle avait de la guerre. Avec des élites qui finalement ont abandonné le sujet européen parce que c'est trop compliqué, ça apportait pas assez de trucs. C'est un devoir moral, c'est un devoir historique, c'est un devoir politique. Et ce devoir, il a besoin d'être porté, il a besoin d'être incarné. Autrement, voilà. C'est pour moi, c'est ça la gravité de la situation. C'est qu'on a perdu ce leadership implicite des élites qui se sont retournés contre l'Europe.
Adina Revol, l'absence de... Voilà, la remarque de notre ami Alberto qui dit la diplomatie européenne en 2025, je ne la vois toujours pas finalement. Elle est pas... Comment vous regardez ça, vous?
Écoutez, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Guillaume Alberto allez-y. Également. En fait, j'ai deux vœux pour l'Europe. Premier, c'est celui de l'unité. Et l'unité à l'intérieur des pays et entre les pays. Ah. Et là, on voit avec ce qui se passe en Europe de l'Est, avec l'ingérence russe qui est très forte, avec les attaques hybrides, mais il y a l'ingérence russe. Mais là, on vient de découvrir M. Musk qui fait de l'ingérence dans les élections en Allemagne et au Royaume-Uni. Donc, on a une vraie question sur l'unité à l'intérieur des peuples. Et moi, je suis née en Roumanie. Ce qui s'est passé en Roumanie avec l'ingérence russe, c'est extrêmement unique, finalement, puisque... on a un candidat est arrivé inconnu est arrivé en tête d'une élection présidentielle annulée par la suite aux ingérences d'une puissance étrangère. Et puis si le terreau des ingérences étrangères est si fertile, parce que j'ai mentionné l'exemple de la Roumanie, parce que les Européens sont très europhiles, mais malheureusement ils ont voté justement pour un candidat qui veut sortir de l'Union européenne. Et pourquoi ? Parce que le terreau est fertile. On a la crise énergétique, la crise du pouvoir d'achat. Et donc, mon vœu le plus cher pour 2025 pour l'Union européenne, c'est que l'Europe se transforme en Europe de l'efficacité, l'Europe des solutions, et justement qui résout des problèmes qui sont très terre-à-terre pour les gens. Donc, des problèmes comme celui du pouvoir d'achat, par exemple.
À commencer par la question de l'énergie, parce que c'est l'objet de votre bouquet, on va en dire un mot. Rompre avec la Russie, le réveil énergétique européen. On rappelle cette ambition qui est de cette... passer des énergies fossiles russes totalement en 2027.
Oui.
Est-ce qu'on va y arriver, Adina ?
Écoutez, oui, l'Union européenne, on en parle finalement assez peu parce qu'on n'a pas eu de crise sécuritaire. Oui. Donc Vladimir Poutine a coupé le robinet, c'est peu connu, entre mars 2022 et septembre 2022, même à la France. Et on n'a pas eu de crise sécuritaire. Ce qu'on a eu, c'est une crise de prix. Mais on s'est passé du gaz russe. Aujourd'hui, on est passé de 45% des importations.
Oui.
On est passé, aujourd'hui, on est à 12,7% des importations.
Alors, c'est une moyenne, parce qu'il y a quand même des pays qui restent très... Ce qui s'est passé autour du 31 décembre, là, effectivement, avec l'arrêt de cet accord.
Oui.
On a ressorti les chiffres qui montrent que vous avez encore beaucoup de pays d'Europe centrale, notamment
c'est la Slovaquie.
Très dépendants. L'Autriche aussi.
Alors l'Autriche et la Slovaquie, mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Union européenne peut offrir des solutions à ces pays. Donc la dépendance slovaque, ils importent encore 65% du gaz, effectivement, à travers la route ukrainienne qui est maintenant coupée.
Oui.
Mais la Slovaquie est connectée à l'Allemagne, elle est connectée à l'Autriche, elle est connectée à l'Italie. Donc il y a un réseau européen qui peut approvisionner la Slovaquie. Et puis il y a des mécanismes européens, comme l'achat groupé du gaz, on en parlait, qui est disponible pour la Slovaquie.
On a quand même du mal à couper le cordon, parce qu'on s'est rendu compte de tout ça au 31 décembre, alors que ces pays étaient encore très très dépendants du gaz russe. Donc,
les pays, la Slovaquie était dépendante, elle a choisi pour des raisons commerciales, c'est la raison en fait. Vladimir Poutine a tenu l'Europe pendant des années sur un prix du gaz maintenu artificiellement bas. Donc c'était en fait inonder le marché européen de son gaz très peu cher pour mieux l'étrangler par la suite lorsqu'on a coupé le gaz. Mais finalement, l'Europe a tenu parce qu'en 2006, en 2009, on a eu des coupures. Bon, moins en France, bien sûr, parce que la France a toujours été diversifiée. Mais en Europe de l'Est, il y a eu des grosses coupures. Et cette fois-ci, il n'y a pas eu. Regardez la Slovaquie, il n'y a plus le transit ukrainien, mais le Slovaque, ils n'ont pas eu de crise comme en 2009. En 2009, la Slovaquie était le pays le plus impacté par la crise gaz. Et aujourd'hui, ce n'est pas le cas.
C'est à la fois le problème du gaz russe et plus largement le problème de l'unité de la politique européenne en matière énergétique qui est posé.
Mais globalement, le problème qui est posé, on a dit un peu ce qu'on voulait, la paix, l'unité, l'engagement des élites et des citoyens, ça c'est les grands principes.
Et la cohérence.
Et la cohérence, mais je dirais que ça va de pair. Et maintenant, il y a des défis très concrets, c'est qu'il y a un décrochage systémique de l'Europe par rapport aux États-Unis et par rapport à la Chine. Et quand je dis systémique, ça veut dire économique, monétaire, financier,
politique,
boursier, industriel, scientifique, technologique. Et ce décrochage, il est le résultat
il est le résultat d'une dynamique non coopérative qui a été mise en place et par les États-Unis et par la Chine depuis avant Trump pour les États-Unis, qui n'ont pas respecté ni leurs engagements ni leurs principes, et par la Chine parce qu'ils ont depuis 20 ans une politique de long terme, et que cette politique de long terme, c'est de devenir par tout moyen les leaders, et que nous, on n'y a pas vraiment cru. On pensait que ça serait beaucoup plus difficile. Donc on est dans ce moment de décrochage. C'est plus un risque. Le rapport Draghi disait c'est un risque. C'est pas vrai. C'est une réalité.
Réalité.
Et donc le sujet, c'est que est-ce qu'on admet ce décrochage et est-ce qu'on donne les moyens quand on est vraiment mal de s'en sortir, parce qu'on a encore des ressources considérables. Et donc le sujet, c'est est-ce qu'on est capable ensemble d'utiliser ces ressources pour non seulement survivre, mais redonner à ce monde une dynamique d'équilibre.
Le mot-clé est ensemble.
Alberto, mais je sais, c'est pour ça que je parle. Ensemble.
Si on est ensemble, on est contre rien.
Oui, mais pour ça, si tu veux, il
si
faut aussi...
Si on n'est pas ensemble,
Alberto,
on ne pèse pas dans le marché de l'énergie.
Alberto, être ensemble... Et moi, je l'ai fait dans la société civile, et quand j'avais des situations politiques, j'essaie de le faire en politique. C'est une manière d'être, c'est une manière de rassembler, c'est une manière d'associer. C'est pas un truc qui se fait. Et donc, on a besoin aussi, dans le système européen, de l'or, par exemple. Mais même Juncker, et on parlait de tout ce que tout à l'heure, ils avaient compris la nécessité.
En comprenant le fait que les égoïstes sont suicidaires.
Oui, mais on a besoin de personnalités dans l'espace public,
vous
à
entendez.
Tous les niveaux, qui portent cette volonté d'être ensemble.
Je vous entends,
qui le portent dans leur action, dans leur être, dans leur méthode et dans leur vision.
Qu'est-ce qu'il va falloir que l'Europe subisse ou endure pour qu'il y ait cette prise de conscience ?
C'est coutume
de dire que l'Europe se construit dans la douleur. Je veux bien, voilà, on a cru que le Covid peut-être allait constituer un début d'esquisse de réponse, de cohésion. Il y a eu le grand.
On a beaucoup fait, comme dit Dina.
Mais on a eu, regardez, rappelez-vous 2020, on était enfermés chez nous.
Oui.
Et finalement, on a eu un vaccin très rapidement, une révolution scientifique par des entreprises qui étaient européennes. Donc,
pas qu'européennes, mais aussi européennes.
En partie, sur les vaccins qui ont été ensuite approuvés, 3 sur 4 étaient européens, des entreprises qui ont été financées avant par l'innovation européenne. Donc on a cette force ensemble de faire des choses qu'on pensait pas possibles. Et c'est une révolution scientifique, ce vaccin à ARN messager.
Vous entendez,
donc l'Union européenne,
tout ça est retombé après finalement.
Mais non, parce qu'on a eu le plan de relance qui, même si il est critiqué, le plan de relance nous a permis, les investissements du plan de relance nous ont permis à tenir pendant la crise russe. On a investi massivement, par exemple, dans la rénovation thermique des bâtiments pour consommer moins d'énergie.
C'est clair. C'est du chômage massif de l'absence de plan de relance, c'était une dynamique de chômage massive à l'échelle de l'Europe qui aurait eu un impact aussi dans le monde entier, parce que l'Europe, l'économie européenne, même si elle est en déclin, reste structurante et pour l'économie chinoise et pour l'économie américaine. Donc tout le monde a besoin de l'Europe. Mais le sujet maintenant est...
Alors la prochaine étape, c'est quoi ? Voilà, c'est
libérer l'Europe.
C'est la croissance
de l'Union européenne.
La prochaine étape est libérer la politique
Alberto.
Des poids négatifs qui conditionnent nos démocraties et nos pays. L'immigration, par exemple. Ce débat sur l'immigration qui est catastrophique parce qu'il nous divise et crée à l'intérieur de nos sociétés des dynamiques perverses, négatives et dangereuses. Si on n'arrive pas à trouver une politique, une vision sur le terrain de l'immigration, on sera plus divisé entre nous et nos sociétés seront plus divisées à l'intérieur. Il y a des sujets qui exigent de la vision. Ce qui nous manque est de la vision. On n'arrive pas à concevoir l'Europe au-delà de l'année prochaine.
C'est pour ça.
Et le défi qu'on a gagné, c'est, comme tu dis très bien, le défi des vaccins, parce que là, on était forcés d'être unis.
Voilà, on était forcés.
Attends,
ça, on
peux raconter une petite anecdote quand même.
Vas-y.
J'étais Sherpa du groupe de réflexion sur l'avenir de l'Europe, piloté par Felipe González. C'était longtemps, c'était en 2009-2010. Et on avait identifié à cette occasion-là le sujet de la santé et d'un risque pandémique.
Et à l'époque, et aussi le risque d'une guerre. Bon. Et à l'époque, ces deux sujets. Non, mais
c'est visionnaire.
Comprendre aussi. On a les traités, on a les populistes, il y a Madame Le Pen, etc. Et tout cela disent, mais attends, il ne faut pas sortir des traités, il ne faut pas sortir des textes. Et même les fonctionnaires de la Commission, on ne sort pas des textes. Et donc, on nous a dit, mais vous ne pouvez pas évoquer ces sujets parce que d'abord, ce n'était pas dans la commande. Et puis ensuite, ce n'est pas dans les traités. Et donc. Il faut arrêter de
la guerre et les pandémies, c'était pas dans les traités.
Ah non, c'était pas dans les traités, donc on pouvait pas traiter le sujet. Et donc, en fait, il faut une démarche à moyen long terme. C'est l'idée du conclave Vision à 2040. Bien poser les problèmes, pour pas les poser de manière simpliste, les poser de manière systémique, parce que derrière le problème des migrations, il y a le problème de la croissance, il y a le problème de la natalité, de la démographie, il y a le problème de différents types d'économie, il y a le problème de défense des frontières. Enfin, et on pose les questions de manière simpliste. Et on prend, quelque part, les citoyens pour des imbéciles, mais comme tout le monde veut simplifier, et les médias aussi veulent simplifier, eh ben ça pose un vrai problème. Donc le sujet, c'est comment on fait, et ça, pour moi, c'est le rôle des politiques, pour expliquer de manière intelligible des choses compliquées aux citoyens. Et moi, je suis convaincu que... Il y a quelques dirigeants dans un certain nombre d'États membres qui ont ce talent. Je pense à Antonio Costa quand il était au Portugal. Ou je pense à Mitsotakis et même à Tusk qui sont capables d'expliquer des choses très compliquées. Aux gens, là, pour éviter que le populisme...
Donc, ça sera une question de femmes et d'hommes. On cherche des hommes, des femmes providentielles pour expliquer ça. Bah aussi, quand même.
Oui,
ça
passe... mais il faut faire émerger des collectivités.
On dit que l'Europe qui marche, c'est l'Europe du concret. On l'a vu avec le vaccin, on l'a vu avec plein de choses. Donc, en fait, l'Europe doit apporter des solutions très concrètes. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Je donne juste un exemple
Le chargeur universel unique.
Ça, c'est une grande innovation.
En victoire de l'Europe, le chargeur universel unique. Mais je ne rigole pas. Certains ont
dit c'est le standard. On parle beaucoup de normes européennes. On dit qu'elles sont inutiles et absurdes. Mais là, c'est l'exemple type d'une norme européenne qui est très utile. Oui. Mais sur l'énergie, aujourd'hui, on a la question du prix de l'énergie. On le sent tous dans notre facture de gaz, d'électricité. Mais il faut savoir que 30% de ce prix-là, ce qu'on paye, c'est des taxes. Donc la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a, par exemple, le courage de lancer un débat européen sur la taxation de l'énergie et de voir justement si on doit taxer, si on doit continuer à faire des entrées de l'énergie pour les budgets nationaux, où on doit justement peut-être libérer du pouvoir d'achat, de la compétitivité, pour que l'Europe puisse peser, continuer à peser dans ce débat.
Très vite, Guillaume, parce qu'il faut qu'on parle
juste
de l'Allemagne.
Quelques exemples de choses qui pourraient changer la donne. Si les Européens, je sais que c'est difficile, etc., se disent et annoncent et se mettent en marche pour créer une armée européenne, notre sécurité d'un seul coup, elle sera améliorée de manière considérable. Et on sait, parce qu'on a parlé des normes, que en Chine comme aux États-Unis, le premier normalisateur, c'est l'armée. Parce que l'armée, c'est quelque chose d'immense. C'est eux qui définissent les standards et ça permet d'accélérer. Deuxième exemple. Là où, un sujet que je connais, qui est dans la tech, la santé et l'intelligence artificielle, si on veut améliorer le diagnostic cellulaire de tous les citoyens, c'est un effort de quelques centaines de millions, mais c'est une volonté européenne. On a besoin d'un marché européen de la santé. Mais ça peut changer la vie de dizaines de millions de personnes de manière quasi immédiate, et on peut améliorer le diagnostic de manière très rapide.
Guillaume, moi j'étais
Alberto.
En décembre 91 à Maastricht, à la conférence de presse que François Mitterrand a fait en pleine nuit avant que tout le monde aille à l'aéroport. Et il a dit, on aura une monnaie unique et on aura à terme une défense commune et une politique étrangère commune. La monnaie unique, on l'a vu, heureusement. Et ça marche bien. La politique...
Enfin, elle a souffert quand même, la monnaie unique.
Aujourd'hui, il y a en Syrie un ministre des Affaires français et allemand qui disent « Nous, on parle pour l'Europe ». Eh non, vous ne parlez pas pour l'Europe. Vous parlez pour vos pays. Et si on veut parler pour l'Europe, on fait quelque chose pour parler pour l'Europe. On ne joue pas au plus malin.
Ils ont un mandat de Kaya Kallas qui est là.
Ils ont un mandat, mais... Oui, enfin, vous avouerez qu'effectivement, le message est un peu biaisé.
C'est les anciennes puissances coloniales.
Alors justement, il nous reste 3 minutes, vous parlez de la France et de l'Allemagne. On parle un petit peu d'hommes, de femmes providentielles peut-être.
Non, plus autant.
Friedrich Merz, qui
a de grandes chances d'être élu chancelier dans quelques semaines en Allemagne. Est-ce que, voilà, on le dit, un grand interlocuteur, grand ami des Français notamment, pro-Ukraine, est-ce que ça peut être l'homme qui impulse quelque chose en Europe ? Ou pas ?
Moi, je pense qu'il faut des dynamiques de deux côtés. Il faut même des dynamiques trilatérales. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une dynamique du côté des institutions. Il faut qu'il y ait une dynamique du côté de la France. Il faut qu'il y ait une dynamique du côté de l'Allemagne.
Il n'y a pas de dynamique côté même, français, hein, vous voyez bien.
Même du côté de la Pologne. Donc, il faut une dynamique multiple. Donc, c'est compliqué d'avoir des déséquilibres. Quand on parlait du couple... du couple Mitterrand-Kohl, mais le type qui a joué un rôle clé là-dedans, c'était aussi Delors, oui. qui se débrouillait pour faire du lien, qui se débrouillait pour mettre des propositions sur la table, etc. Donc moi, je pense que Madame von der Leyen, en tant que présidente de la Commission, monsieur, qui a la capacité de proposer des choses et de développer une vision d'avenir, que
si elle s'est partagé le pouvoir, vous avez entendu ce qu'on, les critiques qui sont émises sur la verticalité du pouvoir de la Commission von der Leyen,
qui a trois priorités qui sont la sécurité et la défense de l'Union, la compétitivité de l'Union et les ressources de l'Union. Il faut qu'il trouve une manière de projeter l'ensemble des 27 dans une dynamique collective. Et c'est comme ça, finalement, qu'on arrivera aussi à relancer une dynamique franco-allemande, franco-allemano-polonaise, je dirais.
Ah, vous êtes plus franco-allemand, dites franco-allemano-polonaise.
La Pologne est devenue une grande puissance en Europe, et si jamais l'Ukraine rejoint l'Europe, l'Ukraine sera une immense puissance en Europe, parce que avec
ça, je dédoute que l'Ukraine.
Oui, mais je dis si jamais. Tu as vu, j'étais prudent, mais si jamais c'est le cas un jour, ça sera une très grande puissance, parce que ça reste un grenier céréalier. C'est donc une puissance énergétique.
On parle plus de couple franco-allemand, on parle de couple franco-germano-polonais. Vous êtes d'accord avec ça?
Ouais, la Pologne, oui. C'est pas la première fois que la Pologne prend une place très importante en Europe. Lors du premier mandat de Donald Tusk, la France a été aussi affaiblie. Et puis la Pologne a pris la place de la France. Donc aujourd'hui, clairement, le couple franco-allemand est à l'arrêt et donc la Pologne est très forte. Mais je remarque par rapport à la situation allemande qui est quand même très inquiétante puisque le modèle allemand, il vacille, il reposait sur une énergie russe pas chère, sur des exportations massives vers la Chine et sur la protection. De défense américaine. Ouais. Et tout ça, aujourd'hui, n'est plus là. Donc, il y a un modèle allemand à se réinventer. Mais je remarque que l'histoire... Moi, je regarde souvent ce que dit l'histoire. Et l'Allemagne a su se réinventer justement après la réunification. L'Allemagne était l'homme malade de l'Europe. Oui. Ils ont réussi. Donc, moi, j'ai foi, justement, que l'Allemagne pourra repartir sur des bases
saines. Peut-être qu'une Allemagne qui veut repartir sera peut-être plus encline à regarder du côté de la France, de l'Europe, de la Pologne, évidemment.
Et qu'il n'y a pas de rente de position. On n'est pas les chefs parce qu'on s'appelle France ou Allemagne. Il y a des dynamiques à créer, et dans ces dynamiques de nouvelles gouvernances européennes à créer, évidemment, l'Allemagne, par définition, la France, par définition, mais aussi la Pologne, l'Italie, l'Espagne auront une place. Mais ces dynamiques sont à vérifier tous les jours, à bâtir tous les jours. Et cette... attitude que la France a souvent, à mon avis trop souvent, qui dit je suis leader parce que je m'appelle France, est une attitude désagréable du point de vue des autres Européens.
Bah, notre influence est en repli, ça se voit aujourd'hui au sein des institutions européennes, ça se voit concrètement. Voilà.
Oui, mais ça c'est à nous aussi de choisir.
Plusieurs épisodes l'ont montré ces derniers
d'abord,
mois.
D'abord, l'influence, elle n'est pas forcément directe des Français. C'est pas forcément avoir des Français, c'est être capable d'avoir une dynamique d'influence auprès d'autres gens. Et après, quand on choisit des Français, il faut choisir des gens qui quelque part inspirent et qui démultiplient l'influence française. Donc il y a des choix d'hommes, il y a des trucs, bon ça c'est... Mais moi, ce que je trouve remarquable quand même depuis 25 ans, c'est qu'on a vécu, 15 crises majeures. L'Union européenne, les Européens ont vécu 15 crises majeures. Croyez-moi, l'Union soviétique, avec la première crise majeure qu'ils ont vécue, ils se sont effondrés. Et nous, on est toujours là. Et donc, le sujet...
Et l'euro est toujours là.
Allez.
Et l'euro est toujours là.
Conclusion.
L'euro, on nous a prédit 10 fois qu'il devait disparaître.
Et combien de personnes disaient l'euro va mourir.
Et non, le sujet, c'est que les Européens ont dit que le populisme, etc., mais l'Europe tient mieux
par rapport au populisme que les États-Unis, que la Chine, que l'Inde, que le Brésil, que l'Argentine. Que, franchement, ça c'est incroyable. Et donc il y a une résilience européenne et il y a une résilience des citoyens européens.
Pourvu que ça dure.
Quelque part, les vrais leaders sur ce continent, c'est les citoyens. Mais ils ont besoin aussi d'avoir une classe politique.
Et on est fiers d'être.
Une collectivité politique.
Fiers d'être.
Vive l'Europe.
En revanche, vive l'Europe. Et bonne année à l'Europe, voilà, dans l'adversité. Voilà. Merci. Bah, c'est terminé pour ce soir. Très belle émission. Merci de venir ce soir à tous les trois. Adina Revol, essayiste, auteur, rompre avec la Russie. On rappelle cet ouvrage, Le Réveil énergétique européen. C'est aux éditions Odile Jacob. Alberto Toscano, journaliste politologue. Guillaume Closa, président d'Europa Nova. Merci à tous les trois. À très vite, avec grand plaisir, pour nouvelles aventures. 18h57. L'info continue sur BFM Business. On se retrouve lundi 18h pour nouvelles aventures. Bien sûr. Bon week-end.
Good evening business. Actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.